Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
C'est le temps de Noël avec une intervention spéciale cette semaine dans cette série des clés pour vivre. Bonjour Père Arthur Deleffe.
Bonjour Nathalie.
Ravi de poursuivre ces entretiens de la semaine avec vous pour préparer le cœur de tous les auditeurs à vivre ce temps si particulier de ce Noël avec tous les scandales que nous avons connus ces derniers mois et plus particulièrement la figure sacerdotale. Alors ce célibat n'est pas toujours encore bien compris. Je le vois autour de moi, Père Arthur Deleffe, des personnes qui sont sur le parvis de l'Église ou qui sont sorties de la pratique religieuse des sacrements de l'Église sont plutôt favorables au mariage des prêtres et ne comprennent pas pourquoi et trouvent un peu ringard aussi ce célibat. Et vous, pour vous, ce célibat est indispensable pour le rayonnement et la mission du prêtre?
Oui, il est indispensable et c'est vrai que j'entends beaucoup de gens qui voudraient marier les prêtres beaucoup de pratiquants les gens qui sont extérieurs à l'Église, voilà. Voilà, moi je crois qu'il y a j'ai un ami prêtre qui dit ça en rigolant, il dit écoutez, arrêtez d'essayer de nous marier, nous on est bien contents, on est bien tranquilles. On n'a pas tous ces problèmes que vous avez vous ceux qui êtes mariés. Voilà, bon, il le dit sur le ton de l'humour, mais je crois que le fait de vouloir marier les prêtres, je pense que d'abord il y a parfois un peu une transposition en se disant voilà, ils doivent penser ci, ils doivent penser ça, avec deux choses qui seraient pas justes. La première, c'est de croire que la relation sexuelle est une forme de nécessité, comme si c'était un acte hygiénique. Vous voyez, le pauvre, il doit plus en pouvoir parce que il a pas de relation sexuelle au moins une fois tous les je sais pas combien de temps. Je me dis, mais quelle image de la femme cela véhicule? Vous voyez, aujourd'hui, on parle beaucoup du respect de la femme, etc. Et ce respect de la femme commence par le fait de respecter le fait qu'une relation sexuelle, c'est une relation qui doit être dans le cadre d'un amour, de don de soi, etc. Et pas juste parce que le pauvre prêtre, sinon, il va exploser, quoi. Enfin, vous voyez, ça serait complètement tordu. Voilà, donc ça, c'est une première chose. L'homme n'est pas un être d'instinct, c'est un être de pulsion. Et ces pulsions, on peut apprendre, le pape Benoît XVI disait, on apprend à les évangéliser, c'est-à-dire à les ajuster. Voilà. Et donc, il y a un travail, c'est sûr, un travail humain qui est difficile, qui est exigeant, qui fait que parfois, le soir, voilà, on se dit oh là là, c'est difficile tout ça, mais c'est un travail de sublimation que l'on fait par amour du bon Dieu. Je vais y revenir après, mais donc voilà, ça c'est une première projection qui est pas juste, c'est de dire c'est un acte hygiénique. Et la deuxième chose qui est pas juste, c'est ça serait vous voyez de ne pas respecter le fait que le prêtre pauvrement, parfois avec en échouant lamentablement, mais essaye de tout donner à Dieu. Vous voyez, voilà. En fait, à chaque fois qu'un prêtre abandonne son célibat, s'écroule, souffre trop dans son célibat,
on a plein de cas, exactement. On a plein la langue de bois cette semaine.
Eh bien, moi, j'entends les gens. Alors, je le fais un peu comme une caricature, mais j'entends les gens presque chanter "Il est des nôtres". Vous voyez, style genre. En fait, voilà, tu te croyais meilleur et tu ne l'es pas. Voilà. Et en fait, tu es des nôtres. Tu es aussi bas que nous. Et je trouve que ça, c'est pas juste non plus. Vous voyez, encore une fois, un prêtre, il est pas meilleur. On est bien d'accord. Et voilà. Et moi, je crois qu'il faut pas se prendre pour les meilleurs du monde. Un prêtre, il peut s'écrouler. Un prêtre, il peut ne pas être à la hauteur. Et on en connaît beaucoup. Mais vous voyez, ce qui est touchant chez le prêtre, et ce qui doit faire qu'on le respecte comme prêtre, eh bien, c'est justement qu'il a dit oui, je vais essayer. Et vous voyez, il y a un passage d'évangile que j'aime beaucoup. Je mets deux passages en parallèle. Le premier, c'est celui vous savez, où Jésus donne des talents. Il y a quelqu'un, il donne un talent. Et cette personne, donc ce talent, on va dire, c'est... Voilà, il donne une vie pour en faire quelque chose. Et cette personne, elle dit, ah ben moi, je la planque dans la terre. Enfin, je le planque dans la terre, ce talent, parce que comme ça, je risque pas de faire des bêtises. Je me prends pas pour supérieur aux autres. Voilà. Et puis après, à la fin, cette personne-là, elle rend son talent au Christ en lui disant, regarde, tu vois, je l'ai pas abîmé. Il est là. Et là, le Christ est d'une dureté, d'une violence dans les propos qui sont assez impressionnants. D'accord ? À l'inverse, vous avez un autre passage où il y a quelqu'un qui doit 10 000 talents. 10 000. Et cette personne-là qui doit 10 000 talents, elle a tout perdu. Elle s'est plantée totalement. Eh bien là, on lui pardonne. Dans le premier cas, il y a quelqu'un qui n'a pas joué sa vie, qui n'a pris aucun risque. Ah, il n'a pas fait de bêtises. Ça, tout va bien. Eh bien, ça, c'est pas bon. Par contre, quelqu'un qui a tout joué, qui s'est planté totalement, qui s'est craché comme jamais personne s'est craché, 10 000 talents, eh bien, on lui pardonne. Et vous voyez, un jour, il y avait une religieuse, et j'ai beaucoup aimé ça, quelqu'un qui vient la voir, qui lui dit « Ma sœur, vous avez vu monsieur machin ? Eh bien, il a planté sa famille, il a planté son entreprise, il a tout planté dans sa vie, c'est vraiment le dernier des, le dernier des salopards, on devrait plus lui parler, etc. 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 » Cette religieuse, au bout d'un moment, la moutarde lui est montée au nez, et lui dit « Écoutez, cette personne-là, ok, peut-être que c'est la pierre des crapules, n'empêche qu'au moins, elle a joué sa vie. » Et elle a dit à la sœur, elle lui a dit à ce monsieur, elle lui dit, et vous avez joué votre vie ou pas ? Parce que vous, alors tout va bien, hein, mais vous n'avez pas pris de risque, tout va bien. Voilà. Et bien, je crois qu'un prêtre, vous voyez, c'est quelqu'un qui essaye de jouer les talents qu'il a. Certains réussissent, et alors ils disent, ben voilà, Seigneur, tu m'avais confié tant de talents, ben j'en ai rapporté le double. Et puis, il y a des gens qui échouent complètement, qui disent, ben moi, tu m'avais donné 10 000 talents, j'étais le meilleur du monde, j'avais les meilleures qualités, etc. Et je me suis complètement craché. Et bien, le Seigneur, voilà, moi, c'est mon espérance, en tout cas, que ça, il le comptera pour juste. Voilà. Et vous voyez que, donc, il y a quelque chose qui serait, voilà, vous voyez, il est des nôtres, ça, c'est pas juste. Voilà. Après, donc, pourquoi est-ce qu'un prêtre, on revient à la question, pourquoi est-ce qu'un prêtre donne sa vie pour être célibataire? Justement, je le disais hier, parce que Dieu mérite qu'on donne sa vie. Vous voyez, il y avait, c'est Fabrice Hadjadj, je ne sais pas si vous voyez, ce philosophe, voilà, juif, converti, chrétien maintenant, qui a un très bon ami musulman. Et il disait ça à Fabrice Hadjadj, un peu sur le ton de la provocation. Il disait, nous les musulmans, nous sommes l'avenir. Pourquoi ? Parce que nous sommes de plus en plus nombreux à être capables de mourir pour notre foi. Il ne parlait pas de djihadistes, hein. Il parlait de gens qui étaient capables de tout jouer pour leur foi musulmane. Et il disait à Fabrice Hadjadj, en gros, il disait, moi je regarde les chrétiens, c'est des mous. Voilà. Déjà, de donner une heure par semaine pour Dieu, ça leur paraît déjà héroïque. Nous, on donne toute notre vie. Voilà. Il y a un prêtre, c'est quelqu'un qui essaye de donner toute sa vie. Voilà. Il peut se planter, encore une fois, mais il le fait. Vous voyez, et si nous les chrétiens, nous ne sommes plus que des chrétiens, alors le pape François, il a toutes les expressions possibles, hein, les chrétiens du divan, les chrétiens en goguette, les chrétiens. Si nous sommes plus que des gens qui ne sommes plus que capables de donner une heure et qui ne sommes plus capables que de prendre un petit peu de temps parce que ça nous fait du bien, ça nous fait chaud au cœur et puis qu'on est là entre nous, etc. Je veux dire, c'est même pas la peine. Le christianisme, je vous promets, dans une génération, il aura disparu. Parce que il n'est intéressant pour personne. Parce qu'il ne mérite pas qu'on donne sa vie pour lui. Et donc, voilà, les prêtres, eux, ils disent ça. Ils disent, la foi, le Christ mérite qu'on donne sa vie pour lui. Et si on marie les prêtres, eh bien, on aura perdu ça aussi. Et donc, on aura tout perdu, en fait. Voilà. Et donc, moi, je souhaite bien qu'on ne m'oblige pas à me marier. Voilà.
Pour résister.
Je résiste. Voilà, et après, ça n'empêche pas que...
Quelle est votre grâce c'est-à-dire vous mettez à genoux.
Ah, pour... oui, c'est
pour
ça.
Pour résister.
Alors,
parce que nous parlons aussi du mariage, mais c'est de l'ordre aussi des tentations, et puis l'œuvre peut-être du démon aussi dans l'histoire.
Alors, non oui, alors je vois comme plan, deux vocations.
Sur un plan spirituel aussi.
Alors, sur un plan spirituel, alors...
Vous avez deux minutes.
Oui, c'est ça. Oui, voilà, non. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de naturel dans le désir de se marier, etc. Et c'est naturel.
Il y a quelque chose de bon.
Il y a quelque chose. Il y a le mariage est bon. Et l'Église a toujours combattu pour défendre la famille, le mariage, le bienfait, etc. du mariage.
Encore aujourd'hui. Hein.
Voilà. Donc, je dirais pas que c'est une tentation dans le sens où le mariage serait moins bien ou je sais pas quoi. Par contre, il y a voilà, c'est une tentation parce que on est des hommes, parce que on peut être touché par la beauté d'une femme, parce qu'on a des désirs de tendresse, etc. Donc en fait, la grâce, ça va être la grâce de la sublimation, c'est-à-dire en fait cette grâce de quelque chose d'amoureux par le, avec le Christ. Et puis c'est là où vous voyez où les saints, les saintes aussi nous aident. Et puis il y a aussi cette grâce de l'amitié spirituelle. Et je crois qu'il y a quelque chose qui est en train d'être redécouvert dans l'Église, vous voyez, notamment à travers la communauté de l'Emmanuel, à travers la communauté de Saint-Martin, etc. Enfin, toutes ces communautés qui essayent de retrouver cette notion d'amitié spirituelle. Amitié spirituelle masculine, mais aussi avec des femmes. Et cette amitié spirituelle, vous voyez, c'est pas une compensation d'un manque ou je sais pas quoi. C'est plus quelque chose. Voilà, j'ai donné ma vie et je le vis intensément avec d'autres. Et ces autres, ils me portent. Voilà. Et donc, c'est cette amitié spirituelle, elle se fait dans des amitiés particulières, entre guillemets, avec telle ou telle personne, avec une famille. Il y a plein de prêtres qui ont des amitiés très fortes avec des familles. Amitié sacerdotale et amitié aussi à travers sa paroisse.
Donc on sent bien que c'est aussi l'une des clés, cette amitié.
C'est complètement une des clés, une des clés majeures.
La clé du jour, c'est que cet entretien se termine et qu'on vous retrouve, si vous le voulez bien, Arthur Deleffe, toujours pour préparer ce temps de Noël avec la figure sacerdotale que nous mettons à l'honneur cette semaine avec vous.
Ça marche.
À demain.
Merci beaucoup.